What button?
What button?
Vous êtes sur Radio Campus dans votre émission What Bottom. Nous sommes le 17 octobre et je suis en direct de la Gare Expé pour la soirée de clôture du festival Serenity. Pour cette soirée de clôture, Serendip Lab nous offre une soirée spéciale Musique Incongrue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Musique Incongrue, c'est quoi? C'est une communauté autogérée fondée en 2006, et plus concrètement, en fait, c'est un site sous forme participative où un bon nombre de contributeurs partagent chaque jour leurs découvertes musicales les plus incongrues. Mais pas que, puisque Musique Incongrue, c'est aussi un agenda de sortie, une radio, une télé. Donc globalement, en fait, c'est une immense base de données culturelles décalées. J'ai rencontré Tristan, alias Michel Berthier, cofondateur de Musique Incongrue.
Les gens qui participent à ce truc contribuent tout et n'importe quoi. C'est un vrai magma, c'est un vrai bordel. Et nous, on a des compétences en informatique et du coup, on extrait la substantifique moelle de ce que les gens contribuent sur ce truc-là pour en faire des choses un peu structurées. Comme un agenda ou une pinacothèque ou une télé.
Dans ces temps un peu moroses pour l'industrie musicale et culturelle au sens large, est-ce que tu penses que le modèle participatif que vous avez choisi et que vous prenez est un moyen de pallier en fait aux problématiques actuelles ?
On a absolument raison sur la manière dont on envisage la musique et la manière dont elle est consommée, je pense. Et on n'est pas contre tout ce système, même s'il me débecte assez largement, mais on est en même temps, on fait des choses en parallèle.
Parmi les groupes programmés ce soir, il y a The Fat, et je me trouve avec ses quatre membres, Romain, Louis, Jacques et Thomas, sachant que Jacques et Thomas font aussi partie du groupe Infectissime. Alors les gars, vous avez sorti votre premier album, Meet Me, sur Dire Dit Record, 26e sortie pour Dire Dit Record. Il se trouve que la 24e sortie, si je me trompe pas, c'était Infecticide. Alors il y a quoi, petite histoire d'amour avec Dire Dit?
Il y a clairement une histoire d'amour avec Dire Dit, c'est clair. C'est vraiment le label de nos rêves, les mecs, dont on aime tout chez eux. L'esprit, les personnes, la gratuité, la générosité. Comment ça s'appelle déjà quand
musique.
Tu fais n'importe quoi et que c'est bien? Ah c'est ça, de la musique.
La musique est pas mal.
C'est la musique.
Au-delà du label, il y a quand même une grosse différence entre Infecticide et The Fat, puisque dans Infecticide, tout est fait à l'ordinateur, alors que pour The Fat, vous bossez en analogique. Donc je suis d'accord sur le fait que l'analogique, par rapport au numérique, peut apporter un son plus chaud, une autre couleur, une chaleur. Mais en vue de vos autres projets, je sais que vous n'êtes pas des pros analogiques, alors qu'on est dans une période où on prône un peu le divintage avec un gros retour au vinyle, etc. Qu'est-ce qui amène pour vous de plus en plus de groupes à défendre ce mode analogique?
C'est l'amour des machines, quoi. En premier, quoi. Je crois qu'on essaie de nous. Moi et Thomas, ça fait quelques années qu'on collectionne un peu des vieux synthés, des vieilles boîtes à rythme et tout ça. Et c'est l'occasion de les utiliser. Voilà, tout ensemble et de s'amuser entre amis, quoi. C'est ni plus ni moins ça.
Et c'est aussi un moyen de différencier les deux groupes au niveau du son. Il y en a un qui est fait, toi, Infecticide, j'ai créé ça il y a quelques années dès maintenant et sur mon ordi, donc je garde cette patte là, faire ça avec mes plugs sur l'ordi. Et The Fat, c'est vraiment un groupe justement pour faire ce qu'on peut pas faire sur Infecticide, c'est-à-dire pour ma part jouer des synthés au lieu de chanter.
Et puis, pour ma part, pour ne pas Jacques, jouer de la batterie.
Pour Jacques, programmer.
Programmer enfin.
Et puis avoir notre passion des machines, voilà, c'est clair, c'est pas vraiment la même chose. Il y en a un, c'est vraiment quelque chose de plus punk sur scène, et là, on est là pour tripoter nos boutons. C'est notre plaisir sur The Fat.
What?
En parlant de votre matos, faut dire que vous êtes plutôt super bien équipé. La plupart de vos synthés, hormis quelques exceptions comme vos Roland, sont plus des modèles récents ou en tout cas revisités. Alors c'est une question de prix pour vous ou de fiabilité ?
Il y a quelque chose de pratique dans un analogique interface numérique, c'est que tu peux avoir des presets tout de suite en appuyant sur un bouton. Alors que sur les analogiques, il faut prendre le temps de retourner tous tes boutons pour retrouver le son que tu veux. Donc parfois c'est très pratique dans un morceau où t'as pas le temps de tourner les boutons, t'appuies juste sur un seul et hop, tu changes de son. Et pour ça, avoir les deux, et puis en plus, chaque synthé a sa patte sonore, ouais. Et
par
chacun
exemple,
a un peu son rôle.
Par exemple, Evolver, qui est un des synthés qu'on a, c'est un hybride. C'est-à-dire qu'il a deux oscillateurs analogues, mais il a aussi deux oscillateurs numériques digitaux. On a un biscuit aussi qui transforme toutes les rythmiques en 8 bits. Donc quelque chose de plutôt chiptune, rythmique, sale, un peu, voilà, une espèce de beat crusher. Donc c'est pas de l'analo pur à proprement dit. Il y a aussi d'autres types de sons qui nous plaisent, quoi.
On va revenir sur votre esthétique sonore en tant que telle. On est sur un truc carrément post-apocalyptique, c'était la description de ce soir et ça correspond super bien. Quelque chose en fait de limite indécent, mais dans le bon sens du terme, où vous cherchez vraiment à salir le son avec du matériel comme l'autobiscuit dont Jacques tu parlais tout à l'heure. Comment vous travaillez cette matière sonore ?
Généralement, nos morceaux sont nés d'improvisation. On passe nos soirées ensemble, on rigole, on allume les synthés au bout d'un moment, et puis on part, et ça peut durer plusieurs heures. Et puis dans plusieurs heures, généralement, on enregistre nos impros en pistes séparées. Et puis ça donne souvent naissance à un morceau ou deux, parce qu'on y trouve un joli thème, un joli son. Après, le gros défi, ça a été, parce qu'on a fait un album sans penser au live, avec toutes nos machines, on a tripoté tous les boutons, on a fait n'importe quoi, et puis au moment de faire un live, c'est là qu'il faut retrouver avec quoi t'as fait quel son. T'écoutes le morceau et tu dis, putain, mais alors j'ai fait ça avec quoi? Ah ouais, mais alors quel preset? Ah ouais, mais j'ai dû l'utiliser. Et donc on a beaucoup cherché avec Jacques, qu'est-ce qui avait été fait avec quoi, comment, quelle note. Et puis finalement, voilà, tu retrouves en toute conscience des choses que tu as conçues... parfois complètement bourré chez toi, en s'amusant à 4h du mat. Sacré boulot, mais c'est le but aussi. Puis je crois qu'on aime bien pinailler là-dessus. Et puis voilà, ça apprend à bien connaître tes machines. Tu fais n'importe quoi avec et après tu essaies de retrouver comment t'as fait n'importe quoi. Et le faire en toute conscience. Et là, vraiment, ça demande de bien maîtriser, de bien comprendre comment elle fonctionne ta machine. T'écoutes le son, tu dis, ah mais là le LFO il est pas comme ça. Mais là il y a deux oscillateurs. Ah mais celui-là il est désaccordé. Ah mais machin, puis tu cherches, tu tâtonnes.
Je voudrais revenir sur un point précis, le fait qu'Internet soit toujours assez omniprésent dans vos projets. Que ce soit d'ailleurs Distrecord, qui est un net label basé sur la licence Creative Commons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vraiment très résumé, cela permet une libre circulation de l'œuvre. Je suis tout à fait en faveur d'une plus grande accessibilité à la musique, mais que pensez-vous de la question de la gratuité, sachant que vos albums sont du coup en téléchargement libre ?
Elle ne doit pas être nécessairement gratuite. Mais en l'occurrence, travailler avec Dire Dit Records, c'est pour nous travailler pour un public qui existe déjà, qui est déjà rassemblé autour de Dire Dit Records et de musique incongrue et de musique approximative et de tout ce qu'il y a autour de ça. Aussi d'autres labels, il y a Weed, il y a la radio Weedir, mais il y a le label, notre label Dire Dit Records, il y a le label Darling Dada. Donc tout ça, c'est tout un univers qui est particulièrement bien ciblé pour nous. Et c'est des gens qui, au début, ont commencé à faire le succès d'Infecticide avant qu'on les connaisse. Ils ont commencé à diffuser nos morceaux. Ils croyaient qu'on était belges, nous on croyait qu'ils étaient belges. En fait, ils habitent dans le 18e à Château-Rouge, moi j'habite dans le 18e à Marx-Dormois. Ils sont venus nous voir à un concert à la ferme électrique il y a un an, un peu plus, un an et demi, et puis ils nous ont proposé de nous signer. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on était voisins en fait. Donc voilà, c'est quelque chose de très nord de Paris et ça nous plaît bien de travailler avec des mecs qui sont nos voisins. Et puis leur façon de faire, leur esprit, cette générosité, cette... Ils nous ont apporté vraiment énormément et c'est des gens chez qui on se sent très bien. Après, vendre un album, de toute façon, de nos jours, même Francis Cabrel ne vend plus les siens, c'est pour dire. Donc, nous, diffuser gratuitement nos albums, c'est aussi un moyen de se faire connaître plus facilement de plus de gens et de faire plus de live, parce que notre trip, c'est de faire des lives. Même si au départ, on n'a pas créé les morceaux en pensant au live, maintenant, c'est vraiment ce qu'on veut en faire, quoi. Et si on doit gagner 3,50€, ça sera en live.
Et ce soir, on est dans une soirée musique incongrue. Un petit mot sur musique incongrue, vos rapports avec ça, votre contribution. Toi, Thomas, je sais que t'es très actif.
Je suis relativement actif, mais depuis pas très longtemps, parce que c'est quand même une assez longue histoire, musique incongrue. Mais c'est comme une grande famille, pas seulement française, génial, d'ailleurs.
Quoi. Des découvertes musicales à chaque clic, quoi. C'est un truc vraiment...
Et toujours dans un esprit bon enfant et un esprit très marrant, c'est-à-dire ça se prend jamais au sérieux. Et c'est très bien, ça c'est très agréable de rencontrer des gens comme ça qui sont passionnés de musique, qui sont pleins d'énergie, qui font énormément de choses et puis qui t'aiment, qui te le montrent, qui te le disent et qui... Voilà, c'est un amour partagé, on est vraiment bien chez eux. Tu vois, on sent mieux que si on était chez eux.
Et très... Enfin voilà quoi, c'est une... Enfin je sais pas.
Très ludique, ouais. La musique, chez la musique à Congrès. Et une passion pour tout ce qui sort de l'ordinaire, pour tout ce qui va être nouveau, tiens, ça m'intéresse. Pas forcément parce que c'est beau, parfois juste parce que c'est drôle, parce que c'est étrange, parce que c'est rare, voilà. Une vraie ouverture à la musique.
On va conclure sur la question technique utopique. Si vous aviez le choix, PPG, COBOL ou AKS ?
J'ai envie de dire COBOL, mais...
Moi, j'ai envie de dire PPG parce que...
Battez-vous !
Non, c'est juste parce qu'il vaut plus cher.
Ah, bah bravo ! Moi, un COBOL, ça me plairait bien parce que j'aime bien cette espèce d'ambiance, d'atmosphère. Dès que t'appuies sur une touche, t'es déjà transporté dans un monde qui n'existe pas. Et c'est toujours agréable. Plus que si je gratte une corde sur une guitare sèche, tu vois. Enfin, pour ma part, hein. Après, je veux pas critiquer les gens qui font de la guitare sèche. Mais, hein.
Tu sais que le PPG, c'est pas une guitare sèche, quoi.
Ah, d'accord. Cette émission est à retrouver en podcast sur la page What Bottom du site de Radio Campus. Et pour ceux qui n'auraient pas tout saisi aux problématiques techniques que nous avons abordées dans notre conversation, vous retrouverez avec le podcast des explications plus détaillées.